Bon, alors, Midrash, la prochaine fois, je vous ferai parvenir les feuilles. Là, je vais vous le lire. Mais ceux qui ont Sfaria ou ceux qui ont un Midrash, peuvent regarder. Il s'agit du Midrash Rabba sur Shemot, l'Exode. C'est la paracha Taftet et la lettre. La lettre Vav. Tafret, pardon. La paracha Kaf. Un instant, oui. Oui, c'est ça. Kafret, haute lettre Vav. Si vous avez. Des fois, les autres yotes, elles ne sont pas exactement les mêmes. Partout, dans toutes les éditions. En tout cas, c'est le dernier d'avoir à faire sur. Je voulais insérer ta dibrote. Donc, si vous avez un midrash, vous pouvez le prendre. Sinon, vous avez sur Sfaria, il y a le midrash Rabba. Ou sur autre chose, si vous avez autre chose. Pour la prochaine fois, j'essaierai. Il paraît qu'on peut partager. Je partagerai le document, mais pour l'instant, il n'est pas sur mon ordinateur. Alors, voilà. On parle ici du pasouk qui est juste avant les Aseret Hadibrot, juste avant Anochi Hashem Elokecha, juste avant la première des Aseret Hadibrot. Dans ce pasouk, il est écrit Vaidaver Elokim et kol hadvarim ha'ele lemor. Elohim a dit toutes ces paroles-là, les morts, pour qu'elles soient redites. Traduisent par en disant en général, mais c'est pour que les choses soient redites. Alors, on a déjà vu le pshat. Ce verset-là, il nous apprend, Rashi le dit, que Akadosh Baruch Hu a dit les 10 paroles d'Aseret Hadibrot, donc il les a dites toutes en même temps. Ce que dit Rashi, personne ne peut faire, mais ce qui nous intéresse plus, c'est que personne ne peut rien entendre. Quand on dit les 10 paroles en même temps, ben on n'entend rien du tout. Et du coup, la question, je l'ai probablement déjà posée, si c'est pas cette année, c'est une autre année, sur le Chumash, c'est à quoi ça peut bien servir qu'Hachem dise quelque chose que personne ne peut entendre. Alors, ça sert dans la mesure où, du coup, c'est écrit dans la Torah et ça nous enseigne que les Aseret Hadibrot forment un tout et qu'il n'est pas possible de faire son marché dans les Aseret Hadibrot. On ne peut pas venir et prendre, bon, je prends le premier, le quatrième, le troisième et le huitième, comme ça, bon. Bon, c'est pas les numéros du loto, on peut pas. C'est-à-dire qu'en vérité, pour comprendre ce qui, dans la Torah, est dit sous la forme, par exemple, Lo tirtsakh, tu ne tueras pas, on ne peut pas le comprendre tout seul. Pour savoir ce que la Torah veut vraiment dire par là, il faut l'entendre en même temps que les neuf autres paroles. En particulier le Shabbat et le kavod qu'on doit donner à son père et sa mère. Ça doit éclairer, illuminer, donner à comprendre mieux ou d'une autre manière le tu ne tueras pas. Ça, c'est le pshat dans Rashi. Le midrash qu'on va regarder ensemble, c'est un des paragraphes sur ce verset-là. Il y a plusieurs paragraphes du midrash. Je vais garder que le dernier. Parce que l'essentiel de ce que je voulais dire, c'est les choses qu'on va voir sur les Aseret HaDibrot elles-mêmes. Et voilà ce que le Midrash dit. Le Midrash dit, Amar Rabbi Yitzhak enseigne, Mashe Anevi'im Atidim Lehitnabot, Bechol Dor Vador. Ce que les prophètes vont dire dans toutes les générations à venir. Le avenir, ça veut dire à partir du Sinaï. Tout ce que les Nevim vont dire. Kiblou Mehar Sinaï. Ils l'ont reçu au Sinaï. C'est-à-dire que quand le navire Heskel va parler à l'époque de la destruction du Betamigdash, le premier Betamigdash, c'est pas qu'il est inspiré à ce moment-là. Il a dans sa neshama qui était évidemment au Sinaï aussi, on va voir, dans sa neshama, il a déjà tout ce qu'Hachem va lui dire de dire, enfin, lui dit de dire. Simplement, le moment n'était pas encore venu pour que cette neshama puisse le dire. Mais juste à ce moment-là, au moment où Yechezkel va parler, à ce moment-là, effectivement, c'est le moment où ce qu'il a déjà en réserve dans sa neshama depuis toujours va pouvoir s'exprimer. Alors, d'où est-ce que ce Rabbi Yitzhak, sur quoi il s'appuie pour dire une chose aussi grosse? C'est Sheken Moshe Omer Lahem les Israël. C'est parce que Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, au début de la parasha de Nitzavim, il dit que les Bnei Israël sont en train d'entrer dans une alliance avec Hachem. Et il dit, Qui est Asher Yeshno Po Imanu Omed Ayom? C'est-à-dire cette alliance, elle est avec celui qui est avec nous ici. Il est debout aujourd'hui, là devant Hachem, pour entrer en alliance avec Hachem. V'et Asher Enenu Po Imanu Ayom. Et celui qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Alors, si on regarde bien la construction de cette phrase-là, Imanu Omedayom En Ktivkan. C'est pas marqué, il est avec nous debout aujourd'hui. C'est marqué Imanu seulement là, dans la deuxième, c'est marqué Asher Enenu Po Imanu Ayom. Il n'y a pas de Omed, le deuxième, celui qui n'est pas là. Il n'est pas avec nous. Alors, pourquoi cette différence? Elu ha-neshamot ha-atidot le-hibarot. Ce sont les neshamot qui vont être créées plus tard. Alors, si c'est des neshamot, en bahem mamash. Elles n'ont aucune matérialité. Et c'est pour ça que on peut pas parler de Amida, on peut pas parler d'elles en disant elles ne sont pas là debout avec nous. Les Neshamot, même si ça n'a pas de sens de parler d'être debout pour une Neshama. Alors, on vient dire, Afalpi, Shelohayu, Beota, Sha'a, c'est vrai qu'elle n'était pas là à ce moment-là. Kolechad ve'echad, néanmoins, Kibelet Shelo. Même ceux qui n'étaient pas présents matériellement, chacun a reçu ce qui lui convient. Donc, chaque neshama a reçu ce qu'elle doit recevoir. Tout ça, tout le monde a reçu la même chose. Enfin, tout le monde a reçu ce qu'il devait recevoir au Sinaï. Vechenu Omer. Et en fait, il y a une phrase dans le Navi Malachi, le dernier des prophètes, c'est le prophète Malachi. Il dit, Massa dvar Hashem el Israël beyad Malachi. C'est-à-dire, c'est un massa, c'est-à-dire, voilà ce que l'enseignement, les paroles de la parole d'Hachem qui s'adressent à Israël et qui sont confiées, qui sont dans la main, qui sont confiées au prophète Malachi. Et là, de nouveau, si on regarde le verset, c'est pas dit Bimei Malachi. C'est marqué Beyad Malachi. C'est pas autant de Malachi. C'est dans sa main, son pouvoir. C'est-à-dire, Shekvar haïta hanevua beyado mehar Sinaï. On n'est pas en train de dire que c'est maintenant qu'il le reçoit. C'était déjà dans sa main. C'était déjà en son pouvoir. Depuis le Sinaï. Ve'ad ota sha'a, mais jusqu'à maintenant, mais jusqu'à ce moment, le prophète n'avait pas eu le droit de prophétiser. Idem pour le prophète Yeshayahu. C'est marqué dans le pasouk, Me'et hayota sham ani Amar Yeshaya miyom shenitna Torah b'Sinai sham haiti. Depuis le moment où ça a été donné au Sinaï, la Torah a été donnée au Sinaï, j'étais là-bas. J'ai reçu cette prophétie. C'est seulement, et là, Ata, maintenant, Hashem Elokim, Shlachani, Veruho, Adarshav, Lonitan, Lorushut, Leitnabot. C'est maintenant seulement que j'ai reçu la permission de prophétiser. Donc, Rabbi Tzra qui dit, c'est ce qu'on va garder là pour nous maintenant, c'est que toutes les prophéties ne sont pas des prophéties qui ont été dites en temps réel, mais elles ont toutes été dites au Sinaï. Et pas seulement ça, pas seulement les prophéties. Mais les Chachamim également, les Chachamim de toutes les générations, chacun a reçu sa part, c'est-à-dire la part de Torah qui est vraiment la sienne, il l'a reçue au Sinaï. Le Chenu Omer, effectivement, confirmation à partir d'un passouk toujours du Sefer Dvarim, et advarim ha'ele diber Hashem el kol kehalchem kol gadol veloyasaf. Sur ces paroles-là, Hashem les a parlé, les a dites à toutes vos assemblées, c'était une grande voix, VOX, alors, dans le passage, c'est marqué Kol Gadol Veloyasaf. Une très grande voix, mais ça n'a pas continué. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rech Lakish. Rabbi Yochanan Amar, Kol Gadol, Kol Echad, pardon, il y avait une grande voix, Nechlak le Zayin Kolot. Cette voix-là, elle s'est partagée en sept voix. Vehem, et chacune de ces voix-là, Nechlakim le Ayin Lashon. Elles se sont séparées en 70 langues. Ça, c'est Rabbi Yochanan. La voix a donné lieu à sept voix. Et ensuite, bon. Resh Lakish Amar, pas du tout. Shemimenu nitnavu kol hanviim she'amdu. C'est de cette grande voix que tous les prophètes ont reçu la prophétie qu'ils reçoivent à ce moment-là. Ça, c'est Resh Lakish. Et les Rabbanan amrei shelo ayalo bat kol. Pourquoi on nous dit que cette grande voix, elle n'a pas continué? C'est pour dire qu'il n'y avait pas, à la suite de ce col, il n'y avait pas de bat kol. Bat kol, c'est une fille de la voix, c'est-à-dire, si vous voulez, un écho, une forme d'écho, une. Ces voix-là n'avaient pas d'écho. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani. Amar Rabbi Yonatan. Comment est-ce qu'ils font? Donc, le premier est partagé en sept. On a Resh Lakish qui dit que tous les prophètes ont entendu de la même voix. C'est-à-dire, cette histoire que. Enfin, ça reprend ce qu'on avait dit, que Hachem, il a parlé tout à la fois. Alors, il n'a pas seulement parlé les Aseret HaDibrot tout à la fois, mais il a parlé, toutes les prophéties étaient dans cette voie-là. Mais chacun a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre. Mais ça ne s'est pas partagé préalablement en voix, puis ensuite en sous-voix ou en petite voix, etc. Pas du tout. Ils ont pris en pleine figure toutes les prophéties, mais chacun n'entendait que ce qu'il devait entendre. Alors, pour essayer de comprendre comment ça marche, alors comme toujours, le Midrash, il prend en général un verset. Michelet premier. Là, il apprend, Rav Shmuel ben Nachmani, nom de Rabbi Yonatan, il dit, je prends un passouk très connu dans Tehilim. C'est un Tehilim qu'on dit vendredi soir, par exemple. Kol Hashem Bakoach. La voix d'Hachem était dans la force. Ça veut dire, a priori, qu'il y avait une possibilité de le lire, que la voix d'Hachem, elle a été dite avec force. Bakor. Et tout de suite, on objecte. Efchar lo marken. Est-ce qu'on peut dire que la voix d'Hachem qui s'éteint entendu là-bas au Sinaï, ou Bichlal, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'Hachem, cette voix-là, il l'a dite avec force? C'est impossible de dire une chose pareille. Pourquoi? Valo malach echad. En kol briya yuchola la'amod bekolo. Aucune créature ne pourrait supporter la voix émise par un seul malach, par un seul ange. Personne ne pourrait, personne, aucune créature ne peut supporter. C'est tellement puissant qu'on ne peut pas supporter. C'est seulement d'un ange. Pourquoi? Gviato que Tarshish, le kol dvarav que kol hamon. C'est-à-dire la voix en question, C'est comme la voix d'une multitude. C'est le bruit d'une armée en mouvement, si vous voulez. Mais Akadosh Baruchou, Shekatuv bo alo et hashamayim et haaretz animale, tsarich ledaber bekoach. Hachem qui remplit le monde, est-ce qu'il a besoin de parler avec force? On ne peut pas lire ici que le mot bakoach veut dire que c'est la voix a été émise avec force. Qu'est-ce que ça veut dire alors, kol Hachem bakoach? Ça veut dire bekoach kol hakolot. On ne peut pas dire que c'est toutes les voix avec force, mais aldate, en vérité, ça veut dire que bekoach kol hakolot ve'aldate de Rabbi Yochanan adakra mesayale shenemar Hashem iten Omer Amvasrot Savarav, ça veut dire Hashem Iten. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hashem a parlé, la Koach, c'est-à-dire en fonction de la force de chacun des auditeurs. Chacun a reçu de la voix d'Hashem, chacun a reçu. Les jeunes, les vieux, les enfants, etc. Chacun a reçu le nombre de décibels qu'il pouvait supporter, disons, dans la fréquence qu'il pouvait supporter.
Là, nous
Ça veut
aussi.
dire bakoach. Le bakoach, il n'est pas au niveau de l'émetteur. Le bakoach, il est au niveau du récepteur. C'est en fonction de la capacité du récepteur que le récepteur a reçu la voix d'Hachem. C'est ça cette idée-là, c'est qu'en réalité, quand on veut parler, quand deux personnes veulent parler, alors il faut toujours regarder, est-ce que celui qui parle tient compte de celui qui doit recevoir, à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, si on entendait bien les choses, bien sûr que si je savais parler, alors je parlerais de telle sorte que chacun d'entre vous entende ce que je dis de la façon dont il peut l'entendre. Si j'étais capable de faire ça. Donc ça, c'est ce qu'on dit d'Hachem. Hachem a parlé, alors c'est vrai qu'il peut dire tout ensemble, etc., mais il aurait pu faire en sorte que nous l'entendions à notre hauteur, en fait. Et peut-être, en vérité, que c'est ce qui s'est passé. Peut-être que ce Midrash, il pense que le verset qui dit qu'Hachem a tout dit, et a dit tout à la fois, où Rashi dit « personne ne peut faire ça ». Mais Rashi n'a pas dit « personne ne peut entendre cela ». Parce que peut-être d'après ce Midrash-là, Hachem, lui, pouvait faire ça, c'est dit tout à la fois, et chacun d'entre nous a pu entendre. Alors quand la Torah veut nous décrire ce qu'on a pu entendre, alors bien entendu, nous, on a dû l'entendre décompressé. D'accord? Ça veut dire tout était compressé, ça nous est envoyé compressé, et nous, on aurait naturellement, c'est une qualité de la voix d'Hachem, que quand ça arrive chez nous, c'est décompressé et c'est audible exactement pour chacun d'entre nous, pour tout le monde au Sinaï, tout le monde a entendu pour soi, d'après Reish Lakish, comme tout le monde a entendu de la même voix, d'accord, mais chacun a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre, ça veut dire, on a décompressé pour que chacun entende ce qu'il avait à entendre. Voilà. Je voulais regarder ce morceau-là du Midrash, pour qu'on comprenne exactement ce qui se jouait, comment ça s'est passé au Sinaï avec la possibilité de l'entendre de plusieurs manières. Et maintenant, on va passer au contenu de la Sérétadibrote, tel que c'est vu par, par le Midrash Rabbah. Alors le Midrash va parler beaucoup, peut-être beaucoup plus, de cette première parole. La première parole, le Anochi Hashem Elokecha, etc. Comme vous savez, certains disent qu'en réalité, toutes les Aseret HaDibrot s'entendent dans le seul mot Anochi. Certains vont même plus loin et disent que toutes les Aseret HaDibrot, ça s'entend dans le Aleph de Anochi. Bon, on verra si le Midrash veut s'envoyer, veut s'embarquer dans cette direction-là. C'est pas ce qu'il fait, en tout cas, au début. Donc, Anochi Hashem Elokecha. Le Midrash s'arrête sur ces trois premiers mots. Et pour essayer de les comprendre, le Midrash dit Adaou dirtiv, Ashama am kol Elokim. Est-ce que le peuple a entendu la voix d'Elokim? Alors, c'est quoi la question? La question, elle vient maintenant. Il faut vous rappeler que Elohim, c'est quelque chose qui sonne pluriel. Bon, la terminaison im, c'est une terminaison du pluriel. Et donc, Elohim, ça ferait a priori référence à une pluralité de divinités. Alors, c'est ce que les minim, Sha'alu et Rab Simlaï, les hérétiques ont interrogé Rab Simlaï, Samlaï, Amroulo, Elaout Arbe Yeshbaolam. Ils lui ont dit, visiblement, à partir de ce verset-là, on voit qu'il y a une pluralité, il y a beaucoup de divinités dans le monde. Parce qu'Elohim, et donc Elokecha, Elokecha, c'est le hey de Elokecha, c'est le pluriel. C'était Dieu, en quelque sorte. On avait déjà ce problème au tout début de la Torah, n'est-ce pas? Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est un pluriel. Ça veut dire que Bereshit, Elohim, ce pluriel-là, a créé. Mais ici, c'est le même problème. Elokecha. Amar lahem, lama? Alors il leur a demandé, Rav Samlaï, il leur a répondu, mais pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi dites-vous qu'il y a beaucoup de divinités? Parce que c'est marqué Ashama Am Kol Elohim. Le peuple a entendu la voix d'Elohim, des pluriels. C'est un pluriel. Alors il leur a dit Shema Katuv Medabrim. Madame Dabert. Alors il aurait répondu le verset là qu'on a cité, ce verset de Dvarim là. Hashama'am kol Elohim. C'est un verset, c'est un morceau du verset. Il y a un verbe qu'il y a après. Hashama'am kol Elohim medaber. Et medaber, c'est un singulier. Le verbe est au singulier. Et donc, c'est pas marqué medabrim, c'est marqué medaber. Donc, c'est la même chose. Bereshit bara Elohim, le verbe bara est au singulier. Puisque le verbe est au singulier, on ne peut pas imaginer que le sujet soit au pluriel. Donc, c'est ce qu'il a répondu aux hérétiques. Et semble-t-il, ces hérétiques, ils étaient contents. Enfin bon, je ne sais pas s'ils étaient contents, en tout cas, ils sont partis. Amrolo Talmidav, les élèves de Rab Samlaï, ils lui ont dit, Rebbe, laelu dachita bekaneratzutz. Eux, tu les as repoussés avec un bâton complètement pourri, quoi, complètement cassé. Ça veut dire, la réponse, elle n'est pas terrible, hein? Pas terrible comme réponse. L'anou, ma'ata meshiv. Mais à nous, qu'est-ce que tu réponds? Alors c'est intéressant. Mes élèves, ils ont une question. Mais c'est un scandale. Ils n'osent pas poser la question. Quand les hérétiques viennent, ils posent la question. Ils disent, mais non, nous aussi on a la question. Mais nous, à nous, mais à nous, tu vas pas répondre comme ça. Tu vas pas t'en sortir avec une petite pirouette. Le verbe est au singulier. Pourquoi ils n'ont pas posé la question? Qu'est-ce que c'est que ces élèves qui ne posent pas de questions? C'est un peu comme vous, hein? J'ai lu le verset, personne n'a posé de question. Rabbi Sheber Soloveitchik de Boston, il enseignait, et à un moment donné, il dit aux élèves, vous êtes tellement mauvais, tellement nuls, je vais changer, je vais prendre un autre groupe. Il y a un élève qui a levé la main, qui a dit, Rabbi, on est déjà le deuxième groupe. Alors effectivement, ils lui ont dit à nous, qu'est-ce que tu vas répondre? Je suis un peu surpris que le Midrash ne nous rapporte pas que le Rav leur a demandé, le Rav devrait leur demander, mais pourquoi vous n'avez pas posé cette question? Pourquoi vous attendez que les minimes viennent poser des questions? Eux, ils viennent poser des questions et bon, alors on peut les repousser comme ça, mais si vous pensez que vous avez une question. Et d'où vous savez même que la réponse que je peux donner n'est pas une bonne réponse, comment se fait-il que vous ne posiez pas la question? C'est grave, hein? Les Talmidim, ils ont attendu que les minimes soient partis pour dire que la réponse n'était pas terrible. Alors, qu'est-ce que vous auriez répondu, vous? Bon, personne ne veut répondre. Alors, on va voir ce que le Midrash dit. Chazar Rabbi Lévi ou Percha. Rabbi Lévi revient sur le passouk qui avait été cité et il l'explique comme ça. Amar Lahem, Hashama Am, Kol Elokim, en fait. Ketsad. Comment il faut entendre ce verset-là? Iluaya katuv kol Hashem bekocho. Si le verset disait dans le verset de kol Hashem bakoach, si c'était marqué kol Hashem bekocho, qu'est-ce que ça veut dire? Kol Hashem Bekocho, ça veut dire la voix d'Hashem, elle est avec la force d'Hashem. Alors, si c'était ça, Lo haya le monde n'aurait pas tenu. Si Hashem avait parlé de toute sa force, le monde aurait été détruit. Et donc, Kol Hashem Bakoach, Bekoach Shel Kol Echad Ve'Echad, comme on a dit précédemment, c'est avec la force de chacun des récepteurs. Abahurim le Fikohan, les jeunes gens selon leur force, Askenim, les anciens le Fikohan, Aktanim, les enfants le Fikohan. Chacun a reçu à sa hauteur. À sa capacité d'entendre. Et si maintenant chacun a entendu à sa hauteur, alors, quand ils vont se parler les uns aux autres. Lui va dire, moi j'ai entendu ça, et l'autre va dire, mais moi j'ai entendu ça. Donc ils vont se rendre compte que, ben, il y a des tas de réponses différentes. Alors Hachem les a mis en garde. C'est pas évident de parler de telle sorte que dans une collectivité, chacun entendent ce qu'il doit entendre. Il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, Lo bishvil sheshmaatem kolot arbe. C'est pas parce que vous avez entendu des voix différentes, de nombreuses voix. Tiyusvurim, que ça vous autorise à penser. Shema Elahu Tarbe Yeshba. Ça ne vous autorise pas à penser que ça veut dire qu'il y a des divinités différentes, de nombreuses divinités dans le ciel. Et la Tiyu Yodim, mais sachez, Sheani Hu Hashem Elokecha. C'est ce que je vous dis en fait. Je vous dis que chez Tiyu Yodim, chez Ani Hu Hashem Elokecha, chez Neymar Anochi Hashem Elokecha. C'est-à-dire, le verset, il ne vient pas dire Voilà, je suis Hachem, votre Dieu. Mais le verset vient dire, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui suis l'Eloah de chacun. Je suis Echad. C'est ce qu'on dit nous aussi dans Kriyat Shema. Shema Israël, Hachem Elokeinu. Hachem, il est Elokeinu. Ça veut dire, il est l'Elokim de chacun d'entre nous. Donc chacun d'entre nous le ressent comme son Dieu. Mais mon Dieu, ce n'est pas le vôtre. Alors on dit Hachem Echad. Hachem Echad. C'est un seul et même Dieu qui parle de telle sorte que nous entendions sa divinité à notre manière. Mais ce sont des aspects différents qui sont faits pour les créatures. C'est des façons de gouverner le monde, par exemple, de différentes façons, c'est ça, les différents noms divins. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs divinités. Mais c'est vrai qu'on pourrait se tromper. Et donc la première parole de ces Aseret HaDibrot, c'est une mise en garde. C'est-à-dire, vous avez expérimenté que je suis votre Dieu. Je vous ai sorti d'Égypte. Mais en vérité, même la sortie d'Égypte, même le passage de la mer, chacun l'a vécu à sa manière. Donc chacun a vécu Elohim, les forces qui étaient en jeu, qui étaient en présence et qui se sont occupées de lui à sa manière. Et donc, la tentation naturelle, c'est d'en inférer que puisque ça se manifeste de façon différente, c'est que c'était déjà différent à la source. Et c'est ça le grand problème de l'unité d'Hachem, si vous voulez. C'est effectivement, du côté d'Hachem, c'est un seul. Mais nous, on le perçoit comme si ils étaient plusieurs. Mais on nous met en garde, ne vous trompez pas. Donc, la première fois, ce n'est pas qu'Hachem nous dit quelque chose de nouveau, etc. Non, il nous met en garde. C'est ça, pour ce midrash-là, le début de la première parole, c'est une mise en garde contre le polythéisme, en fait, comme l'idolâtrie, le polythéisme. Hachem et Echad, bien que dans ses manifestations, on le reçoive comme étant différent de un, comme étant une pluralité. Mais c'est ça qu'on dit quand on dit qu'on ne peut rien dire d'Hachem. Parce que normalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. On infère de ce qu'on voit. On s'imagine qu'on peut remonter à la source. Et Hachem dit, on ne peut pas remonter à la source. Pour Hachem, on ne peut pas remonter à la source. C'est un problème d'Emouna. Normalement, la logique, c'est que normalement, on devrait en déduire qu'il y a plusieurs divinités. Mais le passouk vient nous dire qu'il n'en est rien. C'est le début de ce premier morceau sur la première partie de la première parole. Davar acher, autre chose. Anochi Hashem Elokecha, toujours les mêmes trois premiers mots. Adaoudirtiv, cette fois-ci, prend toujours un verset dans Sefer Dvarim. Pasuk dit: Panim befanim, diber Hashem imachem. Hachem a parlé avec vous, dit le verset, panim bepanim. C'est visage dans le visage, face à face, mais on va voir que c'est pas comme ça que dans la Torah, normalement, on parle du face à face. Le face à face classique, c'est quand Hachem dit, je parle avec Moshe. Mais panim el panim, visage vers le visage. Ici, c'est panim be panim, la face dans la face, littéralement. Amar Rav Abdimi de Min Haifa. Rav Abdimi de Haifa, il a enseigné la chose suivante. Kaf bet elef yardou im akadosh baruchou le Sinaï. Littéralement, il a enseigné, il y a 22 000 qui sont descendus avec akadosh baruchou sur le Sinaï. D'où est-ce qu'il le sait pour dire ça? Parce que c'est marqué dans Tehilim. C'est marqué Rechev Elokim Ribotayim Alfei Shinan. Rechev Elokim, le véhicule d'Elokim en fait. Ribotayim, c'est comme Revavot dans le passage de. Dans la Torah, c'est deux myriades. C'est le pluriel de myriades. C'est-à-dire, deux myriades, ça fait 20 000. Myriades, c'est 10 000. Alfei, c'est des milliers. Et quand on dit Alfei, ça veut dire 2 000 au moins. Donc, ça fait 20 000 plus 2 000. Faites confiance, ça fait 22 000. C'est là que c'est ma... c'est le ce... c'est de là qu'il a déduit. Donc, le véhicule d'Hachem, le véhicule d'Elohim, c'est un passouk dans Tehilim. Dans le, en fait, c'est le Tehilim, Samechet, c'est le Tehilim qu'on dit à Shavuot, en fait. Shinan. Alors, certains disent qu'il faut le shin, c'est technique, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le naan? Anaim ve'amshubachim. Les plus beaux et les plus dignes d'éloges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a 22 000 anges qui sont descendus avec Hachem sur le Sinaï. 22 000, c'est les plus beaux et les plus dignes d'éloges. Certains disent qu'il y en avait bien plus, mais on ne parle que des anges supérieurs, les Sraphim et les Ophanim. Et des autres Malachim, il y en avait plein d'autres. Yachol afalpi chez Ayou Rabim de Chukim Ayou. C'est vrai que peut-être que parce qu'ils étaient assez nombreux, peut-être qu'ils étaient un peu à l'étroit, en quelque sorte. Pour corriger un peu, pas le Afalpi, mais le Alcher, il dit dans son commentaire sur ce Midrash-là, il faut enlever le Afalpi. Alors peut-être, et il faut lire le fit, que puisqu'ils étaient nombreux, alors ils étaient un peu coincés, donc ils étaient un peu à l'étroit. Alors le verset vient nous dire, Shinan, il faut le lire. Shanan ve'ashket. Ils étaient sereins et tranquilles. Et Hachem bam. Hachem était en eux. Enktiv. Mais c'est pas le. Quand j'ai lu Hachem, mais en fait, c'est pas écrit tétragramme. Enfin, l'autre aussi, c'est un tétragramme. C'est pas écrit Yud Ké Vav Ké. C'est écrit Aleph Dalet Nun Yud. Adnout, si vous voulez. Adono Shel Kol Ha'olam Ba'em. Le maître du monde était en eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a raconté tout ça? Il a raconté tout ça parce que c'est marqué Panim be Panim. Et comment est-ce que c'était possible qu'il y ait ce face à face d'Hachem avec Moshe? C'est un contre un, c'est face à face. Et comment ça peut être Panim be Panim s'ils sont avec tous les Bnei Israël? Alors justement, c'est que tous les anges étaient là. Les anges, ils ont toutes sortes de visages. C'est les visages des anges qui étaient en eux, en quelque sorte. Et ces anges-là, ils avaient le nom d'Hachem sur eux ou en eux. Et donc, ils représentaient Hachem. Donc, on peut dire qu'Hachem était face, contre face avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, on vient dire, Anochi Hashem Elokecha, ici, qu'est-ce que ça vient nous dire de particulier, qu'est-ce que ça vient ajouter en quelque sorte? Ça veut dire que chacun avait en face de lui un panim. Donc, ça veut dire quoi? Que Hachem, il a plusieurs visages divins. Donc, c'est encore de nouveau cette même idée qu'éventuellement, il y a une pluralité de divinités. Alors, il a répondu, non. Ça, c'est les accompagnateurs d'Hachem. Il y avait le nom d'Hachem en eux, mais c'est pas Hachem. Ça veut dire, c'est vrai que de ce qui est au service d'Hachem, pour les malachim qui vont agir au nom d'Hachem, puisque Hachem agit dans le monde avec des malachim, il y a des malachim qui ont toutes sortes de visages. Ils ont des visages qui correspondent à chacun d'entre les Bnei Israël. Mais c'est seulement ceux qui agissent sur l'ordre d'Hachem, les malachim. C'est pas Hachem. Hachem n'a pas de visage. Les anges non plus, ils n'ont pas vraiment un visage matériel. Mais chez eux, on peut plus facilement dire. Donc là aussi, c'est un peu du même ordre. On est toujours en train de clarifier que Hachem est Echad malgré les apparences, en fait. Il y a un davar acher, justement sur le fait que Hachem était en eux, dans ses anges. Amar Rav Levi, Shaya Tavla, Shel Shem Amforash Katuv Al Libam. C'est-à-dire, ces anges-là, portait une espèce de une plaque avec le nom d'Hachem. Donc ça voulait dire que Hachem est en eux, quoi. Quelque part, les rencontrer, c'est rencontrer d'une certaine manière Hachem, mais pas directement. Un panim qui est envoyé par Hachem, c'est ceux qui ont accompagné Hachem. C'est-à-dire, en fait, c'est les véhicules, ça veut dire, c'est ce qui va servir pour que Hachem gouverne le monde par l'intermédiaire de ces malachim qui sont les paroles d'Hachem. Un malach, c'est une parole d'Hachem. Davar acher, toujours sur Hachem Bam, Rabbanan Amrin, Shmo shel Elokim haya me'orav im kol echad ve'echad. Ça veut dire le nom d'Elokim était mélangé avec le nom de chacun d'entre eux. Ça veut dire, c'est quoi le mélange? Alors le Midrash dit, le mélange, c'est comme ça. Les anges portaient des noms qui terminaient tous par El. Michaël, Gabriel, Raphaël, tous les anges terminent par El. Uziel. Et donc ça veut dire Shmo shel Elokim. C'est un nom divin, mais c'est un nom divin d'Elokim, qui est lui-même un nom divin. Si vous voulez, dans une forme de hiérarchie des noms divins, quel c'est la divinité, mais c'est un nom c'est un nom de la façon digne, de la façon rigoureuse de diriger le monde qui correspond à Elohim. Amar Akadosh Baruch Hu l'Israël, de nouveau. Lo bishvil shereitem panim harbe yusfurim shema elakut harbe bashamaim. C'est pas parce que vous avez vu de nombreux visages que vous pouvez en déduire qu'il y a il y a de nombreuses divinités. De où sachez Shani hu Hashem Echad, que moi je suis Echad, unique, et il n'y a que moi. Shenemar Anochi Hashem Elokecha. C'est-à-dire, toute confrontation que tu as avec Elohim, c'est une confrontation avec moi. Et donc, Elohim, c'est l'ensemble de toutes les forces, oui. Toutes les forces s'appellent Eloah, si vous voulez. Chaque force est un Eloah ou un Elohim, si vous préférez. Et puis, l'ensemble, c'est Elohim, l'ensemble des forces. Et ce qui est encore au-dessus, ça devient ce que nous on appelle Elohim. C'est-à-dire, c'est la transcendance, c'est une façon d'Hachem, pour Hachem d'agir dans le monde. Il faut bien se rappeler toujours que on dit Hachem ou Elokim. On dit jamais Elokim ou Hachem. D'accord? C'est Hachem qui prend le vêtement d'Elokim des fois. Il se présente sous forme d'Elokim. C'est-à-dire, comme l'ensemble des forces du monde. Mais l'ensemble des forces du monde n'est pas Hachem. Elohim, c'est bien sûr un nom divin. C'est le premier des noms divins après le tétragramme, après Yod Kevavke. Donc on a déjà un deuxième Midrash qui va un peu dans le même sens. Il vient toujours mettre en garde, à la fois ici maintenant, parce que vous voyez des visages différents, Exactement comme il nous a mis en garde dans le paragraphe précédent, en nous disant ne pensez pas que parce que vous avez vu ne pensez pas parce que vous avez entendu, pardon, des voix nombreuses, vous pouvez en déduire qu'il y a plusieurs divinités. C'est ni au titre de ce que vous avez entendu, ni au titre de ce que vous avez vu. Vous voyez avec vos sens, vous avez vu des choses diverses. Ça permet pas de dire quoi que ce soit sur Hachem. D'Hachem, on sait qu'il est Echad, point barre. Un Echad qui aime impensable, c'est un Echad tellement, tellement Echad qu'on ne peut pas l'imaginer. Amar Rav Tuvia Bar Yitzchak. Anochi Hashem Elokecha. She'al menatken hotzeticha me'eretz Mitzrayim. שתקבל אל הכותי עליך. Là, maintenant, on est sur un autre registre. Hachem dit, c'est ça comme ça qu'il faut entendre d'après le Midrash. Anochi Hachem Elokecha. Je suis Hachem ton Dieu. Eh bien, la suite, c'est Asher Hotsetira, je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Hachem dit, voilà, je ne t'ai sorti d'Égypte que pour cela, que pour que tu me reconnaisses, que tu reconnaisses qu'Anochi Hachem Elokecha. C'est moi, Hachem, mon Dieu. Ici, Hachem ne dit pas je suis celui qui vous a sorti, mais reconnaissez-moi comme celui qui vous a sorti d'Égypte, parce que c'est pour ça que je vous ai sorti d'Égypte. En d'autres termes, si on regarde les choses peut-être un peu rapidement, mais ce qu'il est en train de dire, c'est de dire qu'en vérité, si je vous ai sorti d'Égypte, c'est pour moi. Moi, je vous ai fait sortir pour que vous me reconnaissiez comme étant Hachem Elokecha. Il y a des chazals qui disent, Hachem a créé, comme il dit, tout ce que j'ai créé, c'est créé pour moi, dit Hachem. Je t'ai sorti d'Égypte pour que tu me reconnaisses comme étant Hachem Elokecha. Pas que tu reconnaisses que je suis Hachem, mais que je suis Hachem Elokecha. C'est-à-dire, je suis Hachem, et on peut dire, et néanmoins, bien que je sois Hachem, le maître du monde, etc., je joue pour toi le rôle d'Elokecha. Je suis ton Dieu. Donc j'accepte, si on peut parler comme ça, de me présenter comme étant le Dieu d'un peuple. Alors que je suis le Dieu du monde, en fait. Je suis le créateur du monde. Mais je veux que tu reconnaisses que je suis ton Dieu. Et pour que tu puisses le reconnaître, je t'ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire la sortie d'Égypte, c'est une expérience qui doit nous faire comprendre qu'Hachem est Elokeinu. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est une expérience qui doit me faire comprendre parce que, effectivement, tu dois comprendre que la sortie d'Égypte, ce n'est pas un phénomène naturel. C'est une prise en charge. Je t'ai complètement porté à bout de bras, en quelque sorte, pour te sortir d'Égypte. Tu n'avais pas de mérite, je t'ai donné des mitzvot pour que tu aies des mérites, et ensuite je t'ai fait sortir d'Égypte alors qu'on ne pouvait pas sortir d'Égypte. Tout ça, je l'ai fait pour que tu me reconnaisses. Alors pourquoi Hachem veut être reconnu? À la limite, ça fait partie des questions qu'il ne faut pas poser, dans la mesure où on ne peut pas poser la question du pourquoi Hachem fait ceci ou cela. Parce que c'est inconnaissable par nous. C'est pas ça. Et par contre, j'ai fait des choses qui sont presque en dessous de mon kavod pour que tu me reconnaisses. Je fais des choses qui sont telles que quasiment tu peux pas ne pas me reconnaître. Mais peut-être qu'il faut pas dire, comme je dis, tu peux pas ne pas me reconnaître, puisque il y a des Bnei Israël qui vont pas le reconnaître. Si on ne pouvait pas faire autre chose que de le reconnaître, ben, il n'aurait rien gagné. Et je veux que tu le reconnaisses. Je pourrais dire non, mais j'en ai fait assez en quelque sorte pour que tu me reconnaisses comme étant ton Dieu. En d'autres termes, vous n'êtes pas sorti d'Égypte pour être libre. Vous êtes sorti d'Égypte pour me reconnaître comme étant votre Dieu. Et semble-t-il, comme ce qu'Hachem fait, c'est toujours pour notre bien, ça veut dire que c'est mieux que d'être libre. Pouvoir reconnaître Hachem comme notre Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Ça veut dire, parce que reconnaître qu'Hachem joue le rôle d'Elohim, c'est la possibilité pour l'homme d'entrer en relation avec Hachem. C'est une façon pour Hachem de dire, reconnais que je me suis intéressé à toi. Que même si en fait je suis HM, il n'y a pas de raison que je m'intéresse plus particulièrement à celui-là. Mais reconnais, voilà. Je veux que tu me reconnaisses et j'ai fait en sorte que tu puisses me reconnaître plus facilement. Avraham Avinu, il a reconnu Hachem. Mais il ne l'a pas reconnu parce qu'Hachem a fait quelque chose pour lui. Après qu'il l'ait reconnu, Hachem a fait des choses pour lui. Mais il ne l'a pas reconnu après qu'Hachem ait fait des choses. Ici, Hachem dit, moi, je t'ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, en fait, je t'ai fait naître. Et de telle sorte que tu en sois conscient. D'abord, Acher. Donc, je veux que tu. Shetkabel elakuti alecha. Je veux que tu acceptes ma divinité sur toi. C'est-à-dire que tu m'acceptes comme étant ton Dieu, c'est-à-dire que tu as des comptes à me rendre. C'est moi qui te guide et tu as des comptes à me rendre. D'abord, Acher, Anochi Hashem Elokecha, Machal, le Bat Melachim, Shenishbit, Biyadalistim. Alors là, ici, le Midrash prend un machal, une parabole. C'est une princesse qui est prisonnière chez des bandits. Et le roi vient et il la sauve. C'est une princesse, c'est le roi d'un autre roi. Un roi vient qui la sauve. La Haryamim Bikesh Lisaota, Leisha. Quelques jours après, ben, il lui demande sa main, demande à l'épouser. Amralo, Ma'ata notenli. Amarla, imen lach alai. Ela shepilitich. Miyad alistim. Dayai. Finalement, est-ce que, même si ce n'est que cela, à savoir que je t'ai libéré et sauvé des bandits, ce n'est pas suffisant? Ben, c'est suffisant, il dit, c'est suffisant. Alors il y a un commentateur du Marzou, là. Il dit qu'est-ce qu'elle lui demande? Il dit, Loïta makeret kvodo vegodlo. Elle ne connaissait pas la grandeur de ce roi et le poids de ce roi. Ni tout le bien qu'elle allait à recevoir de ce roi. Elle a biksha matana le chat, mais elle voulait recevoir quelque chose dans l'instant. Shetargish to'elet ne suata lo. Pour qu'elle ressente que lui, ben, ça représente quelque chose qu'elle accepte de se marier avec lui. Valken Shivla, donc lui, il lui répond, Mashetargisha Tova, si tu reconnais le service ou la bonté que j'ai eue à ton égard, ça suffit, ça devrait, c'est suffisant. On lui dit, Kach amar Hashem Yitbarach el ha'am, Apachut she'enam makirim godlo v'tovato. Par kol ha'mevinim ba'am, aleihem ne'emar v'ani kirvat Elokim litov, ou que domaine. C'est-à-dire l'élite, les gens, ceux qui comprennent quelque chose, eux, ils diront, la proximité avec Hachem, pour moi, c'est bien, c'est déjà extraordinaire. De devenir ta femme, c'est déjà extraordinaire. Pas besoin que tu me donnes quelque chose. Mais c'est, il dit, c'est le peuple, en fait. Le peuple qui ne se rend pas compte de ce que ça représente d'être dans cette relation où Hachem est Elokecha. Bon, ça c'est ce que dit le Marzou. Peut-être on peut essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui est dit là? Qu'est-ce qu'il dit effectivement ce morceau de Midrash? Machal bat melachim shenishbit biyad alistim. Machal, une princesse, elle est prisonnière chez les bandits. Un roi vient qui la sauve, qui ensuite lui demande, la demande en mariage. Elle lui demande, qu'est-ce que tu me donnes si j'accepte de me marier avec toi? Alors il lui dit, si seulement tu reconnaissais que je t'ai racheté, je t'ai sauvé des bandits, ça me suffit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dayaï. Ça me suffit, mais alors ça veut dire quoi? Mais c'est elle qui demande quelque chose, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il a répondu, ça me suffit? Tu reconnais seulement que je t'ai sauvé. C'est elle qui. C'est quoi cette réponse, en fait? Comment est-ce qu'on va le traduire sur Anochi Hashem Elokecha? Comme toujours, quand il y a un machal, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on a dit de plus dans le machal que dans ce qu'il lui a déjà dit. Il lui a dit. Voilà, je t'ai. Machal. En quoi, c'est quoi le machal ici? Quoi, le clan d'Israël, il a été sauvé comme la princesse a été sauvée. Il a été sauvé des bandits. Le clan d'Israël était dans les mains des bandits. Il est comme la princesse qui était dans les mains des bandits. Les bandits, c'est les Égyptiens. Hachem est venu et il les a rachetés. Ça ne correspond pas vraiment, c'est Amar là, im en lach alai, elah shepiditich, miyad elistim. Si tu n'avais sur moi que ce problème-là, je t'ai sauvé quand même. Compliqué. D'une certaine manière, il lui répond. Tout ce que je veux, c'est que tu ressentes que je t'ai sauvé. Et donc, du coup, c'est ça que si je te donnais quelque chose, je vais ressentir que je t'ai donné quelque chose, et ben, je peux ressentir que je t'ai donné la vie, quoi, quasiment. Mais en quoi est-ce que ça vient, d'une certaine manière, après ce qu'on a déjà dit, ce qu'il a déjà dit, que je t'ai fait sortir d'Égypte pour que tu me reconnaisses. Là aussi, c'est un problème de reconnaissance. Ce que je veux, c'est que tu me reconnaisses. Et à ce moment-là, si tu me reconnais, alors, voilà, c'est, je t'ai donné quelque chose. On avait dit comme ça. Je ne t'ai fait sortir d'Égypte que pour que tu me reconnaisses comme roi. Donc, tu m'acceptes. Je te kabli elakouti Tu acceptes ma divinité sur toi. Tu acceptes que je sois ton Dieu. Alors, est-ce que le nouveau petit morceau là, le Davar Acher, qui dit sous forme d'un machal, qu'est-ce qu'il dit de différent de ce qui a déjà été dit? Il le regarde de l'autre côté, c'est-à-dire, jusqu'à présent, Hachem dit au Bnei Israël, sachez que je vous ai sorti uniquement pour que vous me reconnaissiez comme étant votre Dieu. Donc, Anochi Hashem Elokecha, c'est ça que je veux. J'attends que tu reconnaisses que je suis Hashem Elokecha. Et puis ensuite, il dit, mais quelque part, je veux aussi que tu reconnaisses que je t'ai vraiment donné quelque chose. En te rachetant, en quelque sorte, ce que dit c'est la chaîne de Pidyon, en te rachetant, je t'ai donné quelque chose. Quelque part, tu es redevable. Tu as reçu quelque chose, et moi, je te demande en retour de m'accepter comme ton époux, d'accepter de devenir mon épouse. D'une certaine manière, on pourrait dire même si tu devenais mon épouse uniquement par reconnaissance. Il y a des femmes qui se sont mariées avec des gens qui les avaient sauvées pendant la guerre. Uniquement parce qu'ils les avaient sauvées, pas du tout parce qu'elles avaient envie de vivre avec les gens. Eux, les hommes voulaient se marier avec elles, elles n'auraient peut-être pas obligatoirement envie, mais elles se sont senties obligées à sauver la vie pendant la guerre. sont sentis obligés de se marier avec eux. Donc, si tu reconnaissais uniquement que je t'ai sauvé la vie et que c'est à ce titre-là que tu acceptes de m'épouser, même comme ça, même dans ce cas-là, même ça, Dayaï, même ça, pour moi, ça suffirait. Elle demande, ouais. Et il dit en vérité, tu demandes quelque chose, ça veut dire que tu penses que je dois te donner quelque chose. Alors, ce que je voudrais, c'est que tu comprennes que je t'ai déjà donné quelque chose. Bon. Et que maintenant, ce que je te demande, et même si tu reconnais que je t'ai donné quelque chose, et que ça veut dire quoi? Tu veux bien te marier à condition que je te donne quelque chose? Je t'ai donné quelque chose. Et donc, c'est un mariage que tu fais par reconnaissance, mais pas parce que tu, comme dit le Marzou, pas parce que tu sais que je suis un grand roi, etc. C'est pas parce que tu me reconnais vraiment. À la limite, quand Hachem demande qu'on le reconnaisse comme Elakout, comme la divinité, il ne veut pas qu'on le reconnaisse seulement parce qu'il nous a sortis. Je vous ai sorti pour que vous me reconnaissiez, mais maintenant, si c'est seulement pour ça, ben ça suffira aussi. C'est un peu ce qu'il dit avec l'autre, le deuxième machal, ça pourrait me suffire aussi. Je n'ai pas besoin que ce soit désintéressé, que tu me reconnaisses pour ma grandeur. Parce que tu pourrais me reconnaître parce que pour tous les miracles que j'ai faits, pas parce qu'ils ont été faits pour toi, mais parce que tu as bien vu la puissance que je représente. Tu vois bien que je suis le maître du monde. Bon, ça c'est, voilà. Là, même si en fait c'est pas, tu n'as pas compris ou tu ne connais pas ou tu n'as pas vraiment compris ce qui se passe. Mais toi personnellement, tu as reçu quelque chose. Je t'ai sorti d'Égypte. Et donc par ce petit bout en quelque sorte, pourrait aussi accepter par reconnaissance en quelque sorte. Et ça me suffirait. On pourrait dire, mais ça c'est pas vraiment le reconnaître comme roi, comme divinité. Reconnaître n'importe qui t'a rendu un service, c'est tout. Même si un grand service, sauver la vie ou quelque chose comme ça. Mais le reconnaître comme étant mon Dieu, je te demande pas, au fond, c'est pas nécessaire que tu me reconnaisses comme Dieu de façon uniquement parce que je suis tellement grand. Mais même si tu ne me reconnais que parce que je t'ai donné quelque chose, ça me suffira. Quand j'entends que tu dis que tu veux pas te marier avec moi parce que je suis grand. Et que tu demandes qu'est-ce que tu me donnes? Elle pourrait dire simplement, ben oui, je veux bien me marier avec toi parce que je veux bien être marié avec un roi, avec un dieu, pas avec un roi puisqu'on parle du roi, avec un roi qui est tellement puissant et qui est tellement riche, etc. Oui, d'accord. Non.
Rav.
Oui.
Mais quel est l'enseignement, enfin c'est comme s'il y avait une reconnaissance de dette, comme on dit.
Oui.
Oui, mais
Hachem dit ça, même ça me suffirait. Même si tu me reconnais seulement comme étant celui qui t'a sauvé, et c'est ça qui fait que tu vas accepter de m'épouser. Ça me suffit. C'est pas l'idéal,
Ah, d'accord.
mais ça me suffit. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte prendre. Je vous ai sorti pour que vous me reconnaissiez, mais pas simplement par reconnaissance. Pour que vous soyez en position
C'est-à-dire qu'en
de
fait.
pouvoir me reconnaître, parce que tant que vous étiez en Égypte, vous pouvez pas me reconnaître. Donc, je vous ai sorti d'Égypte, vous pourrez me reconnaître. Avoir tout ce que j'ai fait, etc., toute ma grandeur.
C'est
Ok.
comme si, il avait créé la dette pour que ils puissent nous sortir pour qu'on puisse avoir cette reconnaissance de dette qui est le minimum. C'est une dette qu'on ne pourra jamais, comment dire, solder.
Oui, je ne sais pas, obligé d'aller si loin, si vous voulez, si précisément la première partie, elle dit, je t'ai sorti parce que quand comme vous avez un Dieu, c'était Paro, c'est Paro le grand maître, donc tu ne pouvais pas me reconnaître comme Dieu. Alors je t'ai sorti d'Égypte. Ici, voilà, maintenant. J'ai montré que j'étais plus fort que, plus puissant que Paro, maintenant tu peux me reconnaître. Ça. Alors même si, et alors ça c'est le machal c'est même si tu n'es pas capable de me reconnaître pour cette raison-là, pour ce que je suis vraiment, en quelque sorte, ben tu peux me reconnaître néanmoins avec l'image du roi, pas l'image de la divinité, pas la divinité, mais le roi, même comme roi, c'est-à-dire même comme inférieur à ce que je suis réellement. Simplement comme celui qui t'a sorti d'Égypte, je t'ai rendu un service. Si tu reconnais que je t'ai vraiment rendu un service, alors effectivement, c'est reconnaître une dette, etc. Mais ce n'est pas en termes de tu n'auras pas besoin ou tu ne pourras pas, etc. Mais simplement, tu reconnais quelque chose et c'est ça qui serait ta motivation pour m'accepter. Taïaï, ça me suffit.
Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose quand même au-delà de cette reconnaissance? Moi, j'ai bien aimé là, c'est le si seulement. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui commençait par si seulement tu pouvais. Et j'entends ici peut-être quelque chose qui va au-delà de la reconnaissance, qui serait si seulement tu pouvais me faire confiance. Il n'y a pas quelque chose quand même qui se situerait là quand même?
Il ne parle pas ici de confiance. On pourrait penser comme ça, peut-être ça viendra par la suite. Mais ici, je ne vois pas exactement qu'on parle de confiance, mais peut-être vous pouvez le
Parce que
forcer un peu dans le texte.
là c'est Anochi Elohecha. C'est là-dessus que le Midrash
Oui,
explique.
bon, être ton Dieu, ça veut dire pour l'instant, c'est ça qu'il s'agit. Il s'agit simplement de, je vais être ton Dieu.
Ça me paraît insuffisant quand même, je veux dire, seulement cette reconnaissance.
On va s'arrêter là.
Ok, merci.
En prie.
Merci, Rav.